Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Lodève, il est 20h et vous êtes avec Pays Arbre pour l'émission du bruit dans les feuilles. Ne partez pas, ce n'est qu'une petite, un petit changement saisonnier. C'est moi, Raphaël, qui vais juste présenter l'émission. Et Tanguy est avec moi, comme d'habitude.
Bonsoir.
On n'est pas très nombreux dans le studio. Il y a eu un peu pénurie aujourd'hui. Enfin bon, voilà. On est au mois de novembre, le troisième mercredi du mois de novembre. Le mois de novembre, alors c'est une actualité autour de la plantation de l'arbre, autour de l'olive. Donc on va commencer par ça. On va commencer par vous parler de l'arbre à l'honneur ce mois-ci, chez nous tous et nous toutes, qui est l'olivier.
Alors oui, j'avais envie de parler de l'olivier parce qu'on sort d'un week-end de récolte et on a fait un peu d'huile là cette année. On est en pleine période de récolte de l'olive, plutôt pour l'huile. Hein. Les olives ont tourné et elles sont parties au noir et du coup elles commencent à avoir des taux d'huile intéressants. Et cette année surtout, on a été privilégié parce qu'on a eu peu d'attaques de mouches. C'est un des prédateurs les plus importants de l'olivier sur notre territoire, c'est la mouche de l'olive. Les oléiculteurs la connaissent bien et ils essayent de lutter. C'est une lutte difficile quand on veut la faire sans produits phytosanitaires violents. Et c'est très compliqué d'obtenir de l'olive propre à cause de cette mouche. Du coup, cette année, ça s'était pas vu depuis 4 ans. On a eu beaucoup de soleil et de sécheresse cet été. Et du coup, on n'a pas eu trop d'attaques de mouches parce que la mouche aime pas trop quand il y a plus d'eau, elle peut pas faire son cycle complet. Et du coup, les attaques sur olives cette année sont assez moindres et on peut avoir pas mal d'olives. Il y en a plein les friches, il y en a encore. N'hésitez pas, on ramasse vite une cinquantaine, une centaine de kilos et on est sur des taux d'huile qui sont de l'ordre de 15 à 20%. Du coup, vous obtenez quand même quelques litres d'huile d'olive. Voilà, c'était une ressource avant emblématique du bassin lodévois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde le paysage, on ne se rend pas compte que toutes les collines qui étaient environnantes, qui aujourd'hui sont plutôt couvertes par les chênes et par la forêt, étaient anciennement entièrement plantées en olivier. On était sur des plantations d'oliviers, de vignes, et puis en interrang, on avait plutôt des légumineuses, type pois chiche ou type lentilles. Voilà, c'était un peu les trois ressorts de la petite paysannerie locale. Et du coup, ben, l'ensemble des vallées lodévoises était couverte d'oliviers et de petites terrasses qui les soutenaient. Voilà, on a un peu du mal à l'imaginer, mais si vous regardez des photographies du début du siècle, on voit très très bien l'emprise de l'olivier sur le bassin.
Et l'olive a eu un sacré coup d'arrêt dans les années 56, c'est ça ? Non, c'est en 56 qu'il y a eu le fameux gel et qui a fait mourir une grande partie de l'oliveraie du coin ? Et qui a du coup commencé le changement de paysage ?
Oui, il y a plusieurs facteurs. C'est vrai que le gel de 56 est marquant, mais le premier facteur, c'est la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on perd beaucoup d'hommes et ils reviendront pas forcément paysans derrière, ils vont se tourner vers l'industrialisation et les usines. Et donc on a vraiment une première perte. Et d'ailleurs c'est intéressant de remarquer que les forêts du Lodévois, elles ont l'âge de la Première Guerre. Elles ont juste 100 ans, enfin, en tout cas pour les déprises les plus anciennes. Et ensuite, effectivement, ben, l'olivier dans la partie qui est vraiment le symbole de la Méditerranée, c'est un arbre... qui est fragile finalement et qui craint certains gels. Je dis certains gels parce que il faut que c'est plutôt des gels humides de fin de saison et souvent au mois de février, c'est les pires des gelées pour l'olivier parce que il y a une reprise de végétation sur la fin de l'hiver, souvent accompagnée d'humidité. Et là, on a des gels qui peuvent être redoutables. On en a connu un assez dur en 2012, c'est assez cyclique. Et donc, il y a ce fameux gel de 56 qui ruine entièrement toute l'oliveraie héroltaise et même, je dirais, française. En tout cas, toute la part septentrionale de la Méditerranée est touchée par ce gel, à part quelques enclaves sur la Côte d'Azur où on a des oliviers qui ont survécu au gel de 56.
Et à Saint-Jean-de-la-Blaquière, il paraît que ça a pas mal résisté, parce que, justement, c'est ce qu'une amie me disait, en fait, à Saint-Jean, ça fait comme un petit cirque, et du coup, il y a un petit courant d'air assez permanent, et on le sait assez, le courant d'air évite le gel. Donc il paraît que les oliviers de Saint-Jean-de-la-Blaquière ont mieux résisté qu'ailleurs. Je ne sais pas si c'est avéré. Si vous avez, auditeurs, auditrices, des témoignages là-dessus, dites-nous.
Mais c'est vrai qu'on connaît des vieux arbres à Saint-Jean qui, semble-t-il, sont plus âgés que 56. Parce que la majorité des oliviers ont repoussé parce que les racines gèlent pas. C'est important, ça. Et donc l'olivier repart toujours de souche. C'est vraiment un arbre qui est lié à l'immortalité. Alors, on l'a déjà dit dans cette émission, les arbres n'ont pas de sénescence programmée, ils ont une forme d'immortalité. Et ensuite, ben, leur mort est toujours structurelle. Voilà, l'olivier, c'est un des arbres qui incarne le plus l'immortalité arbustive à arborer. C'est vraiment un arbre de culture, par contre. C'est-à-dire que c'est un arbre qui n'a pas vraiment de situation spontanée. Et c'est un arbre qu'on a cultivé, dont on a transformé les fruits pour en avoir toutes sortes de formes. Et on connaît pas vraiment d'écosystème où l'olivier serait majoritaire, où on dit, voilà.
On connaît plus de variétés sauvages.
Ben, c'est-à-dire, si, il arrive qu'il y ait des semis et qu'on ait des arbres semi-sauvages, mais c'est vraiment un arbre lié à la culture dans le sens où c'est un arbre de lumière. Et aujourd'hui, on le voit, quand on se balade des fois dans les sous-bois de chênes verts, on voit des vieilles souches d'oliviers. Et ces oliviers sont morts de l'abandon et du fait que la canopée forestière les a recouverts. Quand ils n'ont plus de lumière, ils déclinent très, très rapidement. Mais il suffit qu'il y ait une petite fenêtre. Des fois, on voit des vieilles souches et on voit encore trois feuilles dans la dernière fenêtre de lumière. C'est vraiment touchant de voir ces oliviers qui, jusqu'au dernier jour, essayent de fructifier ou au moins de pousser dans ce petit carré de lumière. Et voilà, il suffirait qu'on coupe quelques chaînes autour, qu'on en nourrisse un petit peu le pied et ça repartirait encore pour des millénaires. Donc moi, c'est vraiment un arbre qui me touche parce qu'il est intimement lié à notre culture. Alors je vais pas faire une description botanique, tout le monde connaît l'olivier. Ces feuilles très blanches qui, dans le vent, donnent un côté très argenté et très belle. Il y a beaucoup de gens qui ont des oliviers que pour
la beauté.
Que pour la beauté et l'agrément du feuillage et qui prennent même pas la peine de cueillir des olives. Alors ça, vraiment, c'est quand même fou. C'est-à-dire que c'est un fruit, je sais pas qui a eu l'idée le premier de se dire qu'il y avait quelque chose de comestible là-dedans, parce que quand même, quand on croque à pleines dents dans une olive qui n'a pas été préparée, on est souvent déçu. Juste pour vous dire, ben, si vous ne faites pas de presse, il y a des techniques très simples pour transformer vos olives. Quand elles sont noires, la technique dite à la grecque, c'est vraiment la plus simple qui soit. Vous mettez vos olives noires dans un saladier, vous les saupoudrez de gros sel. Tous les jours, vous enlevez le jus qui sort de tout ça. Et quand l'olive donne plus de jus, vous pouvez la goûter, elle est désamérisée. Parce que les olives noires ont déjà perdu de l'amertume et le sel va terminer d'enlever l'amertume. Voilà, il y a d'autres techniques très simples comme les mettre dans un bocal et faire le vide d'air, là où vous employez carrément pas de sel. Et puis certaines variétés qui se sèchent naturellement et qu'on peut manger sans aucun traitement. C'est le cas de l'olive de Nyon, ce qui est très connu pour ça et qu'on mange juste quand elle est mûre, en fait, bien sèche. Elle désamérise en mûrissant.
Et le coup du bocal, là, tu peux juste nous en dire un peu plus. Donc tu mets tes olives dans un bocal, tu remplis en entier ou pas? Non, pas tout à fait.
On laisse un petit vide sur le haut. Moi, je mets une petite coque de noix que je remplis avec un coton, avec de l'alcool, et je mets le feu et je ferme le bocal. Et du coup, le feu consomme l'oxygène et du coup, on fait une fermentation anaérobie et ça va désamériser les olives également. Et ça peut se faire en verre avec des olives vertes.
Et donc, tu les laisses combien de temps à l'ombre, à la lumière, au froid?
6 mois dans un placard. On laisse 6 mois, c'est pareil, il y a un jus qui se forme et il n'y a plus qu'à les rincer et à les agrémenter comme on veut. C'est intéressant parce qu'on est assez proche du goût de l'olive sans sel qu'on a tendance à pas bien connaître, en fait. Voilà, après il y a les techniques plus classiques à la soude. Et
pour aller vers une prochaine étape de notre émission, l'olivier se greffe-t-il ou se plante-t-il? Est-ce que ça se greffe plus facilement que ça ne se plante? Est-ce que c'est préférable de le planter, de le greffer? Je me dirige lentement vers la chronique qu'est-ce qu'on fait au verger ce mois-ci?
Alors, pour répondre sur l'olivier, c'est fantastique parce que vous pouvez prendre une branche et la couper en 5 petits bouts et planter ces 5 petits bouts dans le sol et vous aurez 5 jolis oliviers qui vont repartir. L'olivier fait facilement des racines de remplacement, il exprime bien sa totipotence et on peut le bouturer très très facilement. Du coup, les anciens avaient plutôt tendance à faire ça pour multiplier leurs oliveraies. Ils arrachaient souvent un bout de la vieille souche avec des jeunes rameaux et ils plantaient ça. Tel quel, et ils obtenaient des nouveaux arbres. Donc on ne greffait pas en production l'olivier. Par contre, l'olivier se greffe. C'est pas une greffe des plus faciles parce que c'est un arbre persistant. On l'a déjà dit, les arbres persistants sont plus difficiles à greffer. Néanmoins, ça se greffait surtout pour changer de variété. On n'a pas toujours cultivé de la luc. Ces dernières années, on a mis beaucoup de luquier. Il arrive qu'on greffe parce qu'on veut transformer et changer de variété. On peut aussi greffer pour avoir l'olivier pollinise mieux quand il y a des pollinisateurs qui sont issus d'autres variétés. Donc pour mettre de la diversité au verger, on peut passer par la greffe. C'est une greffe assez facile qu'on réalise au mois de mai à l'étouffée. Mais voilà.
Elle est facile, mais elle est difficile à prendre, c'est ça ? Elle est plus risquée, quoi.
Elle est un peu plus technique que la greffe sur les essences qui perdent leurs feuilles, parce qu'on n'a pas ce repos végétatif qui est bien pratique pour le greffeur. Et puis, on ne le plante pas à l'automne non plus. Tous les arbres qui gardent leurs feuilles, on réserve les plantations pour le printemps. Donc, on va beaucoup parler de plantation dans cette émission parce que c'est la thématique du mois de novembre et c'est les premières périodes où on peut déjà préparer ses plantations et y penser. Mais l'olivier, c'est un arbre qu'on va planter en terre chaude, plutôt au mois de mars.
Voilà, merci Tanguy.
Finir sur l'olivier, on pourrait faire une émission entière sur l'olivier parce que on a parlé que de son fruit. On pourrait parler de ses rameaux, on pourrait parler de ses feuilles qui sont utilisées en oléothérapie. Hein. Vous avez sur le Lot-des-Vois, on a un centre avec Raphaël Colici qui travaille beaucoup sur les vertus de l'olive et les vertus de l'olivier. Et il prépare des soins à partir de feuilles également et de bois d'olive. Donc l'olivier a des vertus curatives en plus de celles qui sont nourrissantes. C'est quand même, pour revenir, c'est quand même fou. C'est-à-dire que c'était toute notre huile de consommation courante avant l'arrivée des bouteilles oranges de supermarché où on avait de l'huile qui arrivait des grandes plantations de tournesol ou de colza. Dans la région, on n'est pas du tout dans des espaces qui nous permettaient d'avoir de la production d'huile en plein champ. Et du coup, l'olivier, c'était la base alimentaire, quoi. Donc c'est vraiment, donc il y avait le côté aliment, il y avait le côté soin, il y avait le côté taille, même les branches, les rémanents étaient donnés souvent aux brebis, les brebis raffolent du rameau d'olivier. Et puis le bois est exceptionnel aussi, tous les tourneurs le savent et rares sont les habitats du Languedoc où il n'y a pas un saladier ou la paire de couverts pour la salade qui soit fait en bois d'olivier. C'est un bois très très beau qui prend un poli magnifique, qui ne s'abîme pas, donc les ébénistes et les tourneurs connaissent bien aussi ce bois avec une odeur fantastique dont souvent les chats raffolent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le chat lécher le bois d'olivier, mais ça le rend complètement fou. Voilà, c'est un arbre dont on peut parler longtemps et que j'affectionne beaucoup.
Ça a l'air en tout cas, ouais. Du coup, je voulais revenir un peu sur cette thématique du mois de novembre qui est la plantation, parce que notre dicton du mois, qui est le même que le dicton du mois de novembre précédent, c'est que à la Sainte-Catherine, tout arbre prend racine, tout bois prend racine même. La Sainte-Catherine, c'est le 25 novembre, donc c'est bientôt. Et donc, c'est vraiment le moment où on peut commencer à se poser la question de je vais planter où, quoi, comment, quel arbre. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Tanguy ? Enfin, on parle des arbres fruitiers là, plus précisément quand même.
Alors oui, on revient sur ce dicton, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Il est inévitable pour nous, on ne pouvait pas en faire l'économie. C'est le dicton paysan le plus proche de nos activités, donc on avait envie d'insister là-dessus. Alors, dès que vos arbres ont perdu les feuilles, c'est le moment où on va se préoccuper effectivement d'installer des arbres pour le verger, mais pas que, hein. Si vous voulez planter des essences de pays pour faire des haies, ou si vous avez des projets de plantation, quels qu'ils soient, avec des essences caduques qui perdent leurs feuilles, c'est à la fin du mois de novembre et ensuite tout courant du mois de décembre, janvier, qu'on va pouvoir planter. Mais plus vous allez le faire de bonne heure, et plus vos chances de réussite de la plantation seront importantes. Voilà ce qu'on peut en dire, on va y revenir.
On va y aller tout simplement, non ?
Non, alors c'est moi qui dois faire les annonces, c'est moi qui fais la cloche aujourd'hui. Alors je vais essayer de m'y tenir parce que j'ai pas l'habitude et je vais vous faire la cloche. Pour vous annoncer la première pause musicale de cette émission du Bruit dans les Feuilles avec La forêt des mal-aimés de Pierre Lapointe.
vous mes chers Malimi, à vous qui avez rêvé de terres un peu moins brûlées, à vous qui êtes venus jusqu'ici, jusqu'à moi, cueillir le fruit du regret délaissé dans la forêt des Mal-aimés. Dans la forêt des Mal-aimés, chaque arbre est un membre oublié, chaque feuille une âme délaissée. Dans la forêt des Mal-aimés, comme il fait bon s'y promener. Pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au coin perdu, où les murs tapissés de fleurs ne font que rappeler le malheur? Et pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au coin perdu? La la la. Venez à pied, bois d'eau de corneille, venez vite boire le liquide vermeil. Venez vous saouler de blanchi sommeil, ici c'est sous tout ira moins que bien. Si vous osez suivre le chemin, pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au coin perdu, où les murs tapissés de fleurs ne font que rappeler le malheur? Et pourquoi donc êtes-vous venu dans cette forêt au coin perdu?
Et voilà, c'était Pierre Lapointe qui nous a accompagnés avec sa forêt des mal-aimés. Donc la chronique d'après, c'est ce mois-ci au verger. Je refais ma petite cloche.
Oui, oui, on a un peu changé l'ordre de... Enfin, vous l'avez compris, quoi. On a essayé de changer notre manière de faire. Du coup, on est tout perdu. C'est une nouvelle technique à acquérir. Donc, oui, ce mois-ci au verger. Revenons sur la plantation. Et est-ce que tu peux... nous donner des conseils assez techniques et assez précis sur tout ce qui concerne la plantation.
Alors, en premier lieu, c'est un peu comme l'olivier, on peut en parler toute la journée. À ce sujet, on vous le dira dans l'agenda, ce dimanche, vous pouvez nous rejoindre pour une journée d'initiation où on va parler plantation toute la journée et on va planter un ou deux arbres ensemble. Mais des grandes lignes. Donc, plantez le plus tôt possible. À partir du moment où les feuilles sont tombées, vous allez pouvoir vous fournir auprès des bons pépiniéristes des arbres dits à racines nues. On vous conseillera, nous, à l'association, de vous concentrer sur les arbres à racines nues. Pourquoi un arbre à racines nues ? Parce qu'il vient de sortir de terre et il a été élevé en plein champ. À la différence des arbres que vous pouvez acheter en pot, on ne sait pas depuis combien de temps ils sont dans le pot. Souvent, ils sont nourris de manière artificielle. Et puis, les racines tournent, elles font une fois le tour du pot, deux fois le tour du pot, et à la fin, on se retrouve avec un gros chignon de racines qui est pas très très bien pour repartir. La plantation d'un arbre...
Question, du coup, quand tu te retrouves justement avec un arbre que tu as acheté et que tu as ce gros chignon, comment tu fais ? Parce que forcément, tu le sors du pot, donc on l'a tous vu, ce truc. Comment tu fais ? Est-ce que tu coupes beaucoup ? Est-ce que tu enlèves ? Est-ce que tu plantes comme ça ? Parce que, oui,
il faut surtout pas planter comme ça, parce que vous allez avoir un arbre qui a un racinaire qui tourne en hélice et qui va jamais vraiment prendre les bonnes directions pour s'installer. Donc, si vous plantez un arbre en pot, il faut mouiller le pot, il faut lui peigner les racines vers l'extérieur, et toutes celles qui tournent, on les coupe de manière à ce qu'il puisse refaire du racinaire intéressant pour lui. Donc il faut vraiment attaquer ce chignon et le déconstruire complètement. Mais dans tous les cas, voilà, notre conseil primordial, ça serait de pas partir sur ces arbres-là, parce que justement, à l'automne, on peut déplanter les arbres et les transporter en racines nues. Ce qui vous permet aussi de transporter des arbres sans la motte, ce qui est assez pratique. Donc ça, vous allez les acheter chez un bon pépiniériste, hein, quelqu'un dont vous connaissez les travaux, qui est capable surtout de vous informer sur le porte-greffe. On en a déjà parlé beaucoup de fois dans cette émission. Un arbre fruitier, c'est constitué de deux choses. Dans 80% des cas, un porte-greffe d'un côté, qui va être un peu le moteur de votre arbre, le racinaire, et de l'autre, la variété que vous souhaitez obtenir à la fin, qui a été greffée sur ce porte-greffe. Les deux étant totalement différents et étant liés par cet art de la greffe, dont on parle beaucoup.
Par exemple, sur le Lot des Voies et Larzac, sans faire de favoritisme, on a Martin de la pépinière de la Braise, qui est un fervent membre actif de Pays Arbres, qui produit ce genre d'arbre, qui élève ce genre d'arbre.
Alors Martin fait un travail effectivement sur les variétés locales. Il produit une part de ses porte-greffes, ce qui est assez rare chez les pépiniéristes. Je parlais de Monsieur Colici tout à l'heure. Son fils aussi a une pépinière, hein, la pépinière du Bosc. Donc là, en local, pépinière du Bosc et la pépinière de la Braise, vous avez deux pépiniéristes qui essayent de travailler de belle manière avec les arbres. Donc bien évidemment, sans faire de favoritisme, on vous conseillera d'aller voir notre ami Martin, mais n'hésitez pas à aller voir les autres aussi. Et puis surtout, sachez, on le redit chaque année, il y a une grosse fête, on en reparlera sur l'agenda, c'est la fête qui a lieu chaque année à Saint-Jean-du-Gard à la fin de ce mois, le week-end le plus proche de la Sainte-Catherine justement, et où vous pouvez retrouver l'ensemble des pépiniéristes du sud de la France, et parmi les plus talentueux. Et donc là, vous aurez un choix énorme de manière à préparer votre plantation.
Et alors justement, pour préparer, comment tu prépares le terrain? Quel type de trou, enfin, quelle grosseur de trou tu fais? Est-ce que tu amendes avant? Comment est-ce que tu prépares?
Alors le terrain, ça dépend beaucoup de votre terrain, et puis ça dépend du projet. Si vous avez 50 arbres à planter, il va falloir envisager un travail de fond sur le terrain, plutôt avec une sous-soleuse, qui est un outil qui ne retourne pas le terrain, mais qui va décompacter en profondeur votre sol. Alors ça, c'est vraiment indispensable si vous êtes sur des sols un peu durs et très argileux. Sur des sols sableux, c'est une étape qu'on peut peut-être passer, mais attention, c'est toujours mieux de préparer le sol si vous êtes sur de la plantation en plein champ ou que vous allez planter 50 arbres. Si vous avez 3 arbres à planter, un trou suffira. On part sur une base de 80 sur 80. Et donc, tu parlais des amendements. On n'amende pas les fonds de trous. L'humus, c'est l'arbre quand l'arbre explore le sous-sol, il attend pas d'y trouver de l'humus. L'humus, c'est une part du sol qui est en surface. Donc, on va pas amender en fonds de trous. On va laisser l'arbre s'habituer à son environnement. Et on fera des amendements beaucoup plus tard quand l'arbre va arriver à fruits. C'est à ce moment-là qu'il faut nourrir les arbres, c'est quand ils commencent à donner des fruits. Avant, c'est pas vraiment nécessaire.
Et quelle profondeur tu fais de ton trou?
80 par 80.
Je pensais que c'était un carré. Ok, 80 par 80 par 80.
Et on décompacte bien dans le fond de sol. On essaye de pas mélanger les couches, hein, si vous avez des horizons de sol très différents. Souvent, on a la première couche entre 2 et 10 cm qui est très humique, justement, où il y a beaucoup de matière organique. Celle-là, on va la réserver d'un côté. Ensuite, on va enlever le fond de trou. Ça, on va le mettre d'un autre côté. Et puis, on va essayer de remettre les couches dans le même ordre. Voilà, on va tailler un peu les racines. On peut éventuellement les praliner, les mettre dans un mélange d'argile et de bouse de vache avec un peu de prêle. On peut être au petit soin avec les racines qui, elles, vont commencer à pousser. C'est pour ça qu'il faut planter de bonne heure. Les racines commencent à pousser dès qu'elles sont dans le sol. C'est-à-dire même quand il n'y a pas d'activité sur un arbre caduc, qu'il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas d'activité en surface parce qu'il fait froid, les racines, elles poussent toute l'année.
Je reviens sur cette histoire de plantes en pot, parce que malheureusement, il y en a quand même, malheureusement ou pas, mais quand tu dis défaire le chignon, c'est-à-dire tu peux réellement taper dans le chignon et couper, parce que peigner les racines, quand tu as des racines qui font 0,5 cm de diamètre, tu les casses en général. Donc quoi, il vaut mieux, tu prends un petit sécateur et tu remets un peu ta motte à ras, quoi, c'est ça?
Oui, tu vas retailler. Dans tous les cas, une plantation, c'est traumatique pour un arbre. On va dans tous les cas arracher la racine pivot. Le pépiniériste l'a lui-même fait déjà au moins une fois, si c'est pas deux. Hein. Il faut savoir que chaque année, les pépiniéristes déplacent leurs arbres pour le préparer au traumatisme de plantation et pour que le chignon de replantation soit le plus gros possible. Donc, on taille côté racine et on taille aussi côté supérieur. On essaye d'acheter des arbres les plus jeunes possibles. Ça veut dire que la greffe, elle a juste un an en pépinière. C'est ce qu'on appelle un sion. Et là, on va aussi retailler la tête. On achète souvent des arbres qui font 80, 1,50 m de haut. Moi, je conseille aussi aux gens de rabattre fortement leur arbre et de les tailler à trois yeux. Et ça va permettre que l'arbre ne développe que ce qu'il peut. En fonction du racinaire qu'il a pu garder et de son adaptation. Et puis surtout, on prévoit bien la saison complète. Une fois qu'on a planté notre arbre, il va falloir penser au paillage. Il va falloir penser à ce que pendant les 3-4 premières années de sa vie, il n'y ait pas d'herbe et de graminées qui poussent à son pied, parce que c'est très concurrentiel, les graminées et les arbres. On est sur des ressources équivalentes. Un arbre dans une prairie, il va être privé de 30 à 40% de la ressource dont il a besoin pour croître dans les premières années. C'est pour ça que d'une manière ou d'une autre, que vous mettiez du carton, du broyat, du feutre, des vieilles couvertures, vos vieux t-shirts, n'importe quoi au pied de l'arbre, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'herbe qui pousse à son pied, ça c'est vraiment très important. Et puis prévoir aussi que vous avez un été proche de la sécheresse. On a des sécheresses de plus en plus importantes dans le pays. S'il ne pleut pas durant 4 mois et que vous avez planté des arbres la saison précédente, il va falloir les arroser le moins possible, bien évidemment, pour qu'ils s'adaptent à son environnement, mais il va falloir prévoir quelques arrosages. On part sur une base de 40 litres par arbre le premier été, et ce, tous les 3 semaines, 1 mois. S'il ne pleut pas pendant 4 mois, vous avez besoin de 4 x 4, 16, 160 litres par arbre. Si vous voulez en planter 50, je vous laisse faire le calcul, mais il vous faudra des réserves en eau. Donc c'est aussi ça qui doit guider. C'est pas la peine de planter 50 arbres si vous n'avez pas la possibilité de leur rendre un petit service l'été d'après et d'avoir la quantité d'eau nécessaire. Donc c'est un peu tout ça qu'il faut avoir, c'est avoir une vision sur le long terme. Et puis travailler avec du bon matériel et faire les bons gestes. C'est pas évident de planter des arbres, hein, ça je le dis souvent. C'est parce que c'est un polytraumatisé qu'on accueille sur son terrain. Et ben voilà, un polytraumatisé, il a besoin de soins et d'amour.
Magnifique.
Je continue mon œuvre de cloche. Et je
tu
vous
le
parle
fais très très
de...
bien, Tanguy.
Je vous parle de la chronique suivante, où tu vas prendre un peu plus la parole, Raphaël, parce que c'est toi, encore une fois, qui est allé chasser les sons à l'extérieur et tu as profité d'un week-end de vacances familiales. Hein, tu vas nous expliquer ça.
Et oui, je suis comme les arbres, je suis transplantée. Je ne suis pas d'ici à l'origine, je viens de Bourgogne. Et on discutait l'autre jour, toi et moi, ou l'autre jour, il y a bien longtemps. Et voilà, je disais que j'allais monter en Bourgogne, voir mes parents, ma famille. Et on parlait du bocage bourguignon, on parlait des haies. Et tu m'as suggéré de faire une petite interview de ma grand-mère qui s'appelle Mado, qui a 89 ans, qui roule les haies. Alors j'espère que vous allez bien la comprendre. Voilà, je lui ai demandé qu'elle me parle un peu de du paysage qu'elle avait connu, de ce qui s'était passé dans ce paysage, des haies et de cette fameuse technique du plaissage. Donc elle était assez impressionnée, hein, j'ai coupé les jurons du début où elle me dit que je l'enquiquine, mais voilà, elle était assez impressionnée, donc j'ai fait des coupures un peu sèches parfois, donc ça saute de temps en temps. Mais voilà, on va écouter Mado et puis on en discutera après.
Il y avait beaucoup, beaucoup de haies. D'abord, il n'y avait que des bien plus petites parcelles. Donc, quand on remembre, ils ont donné des grandes, grandes parcelles. Donc, ils en ont deux, trois dans la même. Et là, le long du chemin, là, il y avait une haie. Il y avait deux haies par le fait. Une haie là, le long de la route. Et puis, une haie, il y avait des petits prés. Là, et de l'autre côté du petit pré, il y avait encore une haie. Il y avait au moins... Les perroquets en avaient un, nous on en avait un. Après, qui c'est donc en avait encore un. Après, c'était l'Ernest perroquet en avait un. Après, c'était le, je ne sais plus qui c'est qui en avait encore un. Après, c'était nous, c'était la grosse chauve. On arrivait sur, tu sais, quand ça remonte un petit peu. Là. Puis après, c'était le paqui. Là, c'était petits prés qu'on mettait, on les fauchait, ou alors on les mettait la nuit, on les emmenait pour la nuit. C'était des vaches à lait. Le matin, on les emmenait au pré. Et puis on les ramenait le soir, donc on les passait à la rivière ou on les faisait boire ici dans une eau. Il y avait trois grosses fermes ici, c'était pas les gens de Normier qui étaient les propriétaires, ils étaient fermiers.
Il y avait donc les trois gros propriétaires qui avaient déjà des gros prés,
voilà,
ou des gros champs,
voilà.
Et puis vous, les petits propriétaires qui aviez tout plein de petits,
voilà,
prés et de champs,
voilà,
disséminés,
voilà,
un peu partout,
voilà.
Et vous aviez combien de surface, vous? Tu te souviens?
Une trentaine d'hectares. Oui, mais ça faisait pas beaucoup quand même. Là, c'était des fermes qui avaient quand même, je sais pas moi, 60-80 hectares.
Et vous aviez combien de bêtes là-dessus? T'avais quoi, une dizaine de vaches?
Oh, ben, on n'avait plus que ça. Il y avait les vaches les laitières, puis autrement, on avait les vaches dans la bouche, plus les chevaux, puisque à ce moment-là, il n'y avait pas de tracteur. Hein. Tout le membrement qui a été fait, c'est au moment de l'autoroute, en 64. Après, il n'y a eu que les grandes parcelles, tu comprends? Autrement, c'était tout morcelé.
Et donc, c'est là où il y a eu des échanges de parcelles et tout, voilà, ça, et tout ça. Voilà. Ça a duré longtemps?
Oh ben oui, oh là là. Et puis alors, il y en a eu des discussions, prêts à se battre même, hein, parce que ça a duré bien 2 ans. Hein. Enfin, tout le monde en a perdu un petit peu. L'autoroute a passé, il n'y a pas... Tu vois, l'autoroute, il pouvait pas... Elle passait sur une grande parcelle de quelqu'un qui en avait, je sais pas, les 3/4 de la parcelle de prise. Bon, il allait pas tout laisser ses terres, et puis les autres, rien du tout. Je sais pas, je te dis ça comme ça. Ils en prenaient, par exemple, 5 hectares. Mmh. Hein. Bon, ben, au prorata, l'autre, fallait qu'il en laisse, ben, je sais pas moi, 1/2 hectare, ou tu comprends?
Mmh. Ouais. Ah oui, c'était vraiment, ils ont mutualisé les pertes liées à l'autoroute.
Ben oui.
Mais du coup, ça vous a arrangé la vie, peut-être, non? D'avoir des plus grosses parcelles.
Ah bien sûr, c'était... Ben, puis surtout les l'eau se ferme, hein, tu te rends compte.
C'est aussi le moment où vous êtes passé du travail à cheval avec le travail à la machine.
Voilà, en tracteur.
Vous étiez 8 ou 9, quoi, dans les années 50-60. Mmh. Et maintenant, il y en a 3, avant, il y en avait 9.
9, et avec ça, c'était, il n'y avait pas les tracteurs, donc il fallait du monde. Comme ils faisaient les haies.
Oui. Tu me racontais ça.
Les hivers, les hommes, ils faisaient le ponçage déjà avant de partir. Il fallait curer, enfin, tout, leur donner à manger, les faire boire. Il fallait faire la bouffe aussi, pour la pouture qu'on appelait ça. Quand ils faisaient le battoir, là, il y avait la graine, l'enveloppe de la graine, quoi. On appelait ça la bouffe. Et avec des betteraves qu'on récoltait, et on passait les betteraves au hachoir, quoi. Mmh. On faisait de la pouture. L'autre, on faisait ça le soir.
Et entre-temps, du coup, c'était que les hommes qui allaient faire les haies, c'est ça?
Ah, bah oui. Bon, les haies, elles poussaient, comme t'en vois des qui sont grandes. Donc, ils les coupaient à une certaine hauteur.
Ils les coupaient à quelle hauteur, du coup?
Je sais pas, 1,50 m peut-être, même pas 1,50 m. Donc ils coupaient la haie, puis alors ils faisaient aussi en coupant les branches, les machins, ils faisaient comme des piquets. Ils mettaient par distance dans la terre, et puis les petites branches des haies, eh bien, ils coupaient un petit peu pour pouvoir les plier, et puis ils les tressaient comme ça. Oh, mais ça faisait des jolies, hein. Et puis quand ça fleurissait au printemps, c'était superbe. Hein. Ça faisait une épaisseur, tu ne passais pas le travers. Hein.
Ils repassaient sur la même haie tous les combien de temps?
Oh, ben, ça durait quand même plusieurs années. Hein.
Donc tous les 4-5 ans, ils repassaient
tantôt c'était l'une, tantôt c'était l'autre.
Hein. Et ils récupéraient le bois pour faire du bois de chauffage.
Voilà.
Les fagots, quoi.
Puis autrement, ils allaient faire le bois parce qu'il n'y avait pas de chauffage central. Hein. Des haies, ça dépendait, mais autrement, il y a des haies qui n'étaient jamais faites. Ça faisait des abris pour les bêtes aussi.
Vous greffiez des trucs, Mado, tu sais greffer, toi?
Ah non, je sais pas greffer. C'est spécial quand même, hein, une greffe.
Chacun avait son petit verger ou pas?
Oh non, ben, là, moi je l'ai vu construire. Là, c'est ton grand-père qui a fait le verger, là.
C'était quand même un pays d'élevage ici, quoi. Hein.
Oui, c'était pas... c'était l'élevage.
Et ben voilà, c'était Mado.
C'est ma grand-mère, j'adore entendre sa voix, enfin voilà, c'est une femme que j'aime énormément. Et juste comme ça, je me rends compte que c'est pas du tout la même histoire, enfin c'est marrant, c'est pas du tout la même histoire paysanne ici et chez moi, on va dire, enfin là-haut. Au début de l'émission, tu parlais des terrasses, des oliviers, de l'abandon des terrasses, et là on entend le remembrement, la disparition du bocage... C'est voilà, c'est pas les mêmes paysages, c'est pas les mêmes histoires, on va dire.
C'est pas les mêmes histoires, et puis pourtant il y a des choses qui sont totalement identiques dans le sens où cette vie paysanne, elle occupait l'ensemble du temps. Il y avait des activités pour la journée et il y avait des activités pour la veillée. Là, il faisait, j'ai oublié comment elle dit, la bouchure ou
la pouture,
pour les bêtes, et donc ils passaient leur soirée à broyer des betteraves au coin du feu. Et ça, on va retrouver ça à peu près dans toutes les pratiques paysannes. C'est une vie en fait. Et moi, je suis toujours très touché par ces témoignages des anciens. Alors là, c'est d'autant plus touchant qu'on a ce témoignage sur le remembrement et sur le plaissage. Le plaissage, c'est quelque chose qui a laissé des traces dans le paysage qu'on a un peu oublié. On le retrouve encore dans tous les noms qu'on appelle le plessis. C'était des haies bocagères travaillées. Donc c'est une technique qui fait qu'on coupait la moitié d'un arbre et on le pliait. Et par l'autre moitié, l'arbre continuait à vivre et il faisait comme ça des haies basses impénétrables qui permettaient de maintenir le bétail. Souvent, on faisait ça avec des essences type aubépine, un peu piquante.
Elle me parlait du frêne. Je lui demande, ben, j'ai coupé là, mais elle me disait que c'était souvent des frênes qu'on plaissait.
Aussi, parce que c'est des arbres qui reprenaient bien, parce que c'était quand même un sacré traumatisme. À la base, on tressait donc des arbres vivants en les coupant à moitié quand même. Hein. C'était vachement violent, la pratique de la plaisse. Et puis voilà, c'est aussi un témoignage où on entend parler de ce remembrement. On a un peu oublié, hein, sous De Gaulle dans les années 60, ça a été le branle-bas de combat. Remembrement, ça voulait dire on enlève le haie, on détruit le bocage, on fait des grandes parcelles pour ouvrir la voie aux tracteurs. Hein, c'était le plan Marshall, il y avait tous ces engins qui sont arrivés des États-Unis. Et ça a vraiment changé l'agriculture. Il y a quelques années, j'entendais une émission où ils interviewaient, j'ai oublié son nom, le ministre de l'Agriculture sous De Gaulle. Donc qui avait piloté le remembrement au niveau de l'ensemble du territoire et qui regrettait. C'était très touchant son témoignage, il s'est dit on s'est trompé, hein. Donc c'était bien après, il était à la retraite à cette époque-là, ce monsieur, et il disait qu'ils avaient fait là une des plus grosses erreurs en termes de projection agricole sur le long terme. Et aujourd'hui on le voit bien, et on le sait d'autant plus à Paysarbre, rebocager, remettre des arbres et des haies sur les exploitations agricoles, aujourd'hui les politiques publiques, elles financent des projets dans ce sens, et c'est on est en train de remailler et de revenir en arrière en fait, de revenir à des pratiques ancestrales.
Ouais, mais n'empêche que quand je vois la Bourgogne, je sais pas si on se dirige vers l'agroécologie en Bourgogne, enfin... Et chaque fois que je retourne voir mes parents, il y a une haie qui a disparu encore, il y en a une qui va bientôt disparaître. Donc c'est quand même drôlement marqué par l'intensification, ce paysage là-haut. Enfin, c'est pas non plus c'est pas la Beauce, hein. C'est des jolies collines avec sur le dessus de la colline les forêts. En Bourgogne, c'est beaucoup ça. Les forêts sont sur le dessus des collines et les coteaux. Traditionnellement était un peu en vigne, mais c'est beaucoup des prés et des champs. Et voilà, c'est en tout cas ce paysage, il est, j'y suis assez attachée. Et ces haies qui disparaissent chaque fois un peu plus, pose quand même pas mal de questions en termes de, tous ces enjeux actuels de l'agroécologie. Je sais pas où est-ce que va se mettre en place l'agroécologie chez nous ici dans l'Hérault peut-être.
Mais sans parler d'agroécologie, là on parle d'agroforesterie, hein, parce que c'est le terme moderne qui est employé par les technocrates bruxellois. Et l'agroforesterie, à savoir remettre des essences de pays et forestières dans les systèmes agricoles, elle avance en termes de pourcentage de parcelles. Alors elle avance bien dans notre région, parce que moi je connais bien la région, parce qu'il y a aussi un réseau associatif dense, qui est le réseau rural agroforestier, et qui travaille rebocager nos territoires. Donc je connais pas du tout le paysage politique en Bourgogne, mais je pense que c'est lié à des histoires de ce type-là qui peuvent être locales. Mais d'un point de vue global, l'Europe finance de plus en plus par le biais de plein de systèmes et même des privés. Enfin, on va quand même, je crois qu'on est à un point de non-retour et que du coup les pratiques agricoles vont changer. Et dans les années à venir, on va voir se reconstruire des systèmes agricoles qui incluent l'arbre. En tout cas, c'est mon espérance et mon souhait le plus fort.
Je profite juste, hors de mon temps paysarbre, je suis salariée dans les CIVAM. Et il y a une rencontre nationale des CIVAM en Bretagne qui va avoir lieu. Les CIVAM, c'est un vieux réseau associatif qui en gros travaille avec des collectifs d'agriculteurs. L'idée, c'est de faire ensemble, de tester, d'expérimenter et ensemble, en collectif. Et donc ce réseau CIVAM, il se retrouve en Bretagne là courant fin novembre, Et la question, c'est ça. Est-ce que deux systèmes agricoles peuvent cohabiter? Enfin, est-ce qu'il y a deux systèmes? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Et comment ça peut cohabiter? Donc voilà, moi je suis un petit peu plus pessimiste à propos de ce que tu viens de dire sur le retour de la haie. Mais en même temps, c'est mon métier, donc il faudrait que j'y croie un peu plus. Bon, enfin bref, voilà. C'était Mado, ma chère Mado.
Eh bien, merci à elle d'avoir répondu à tes questions. Et pour cette petite tranche de vie du quotidien des paysans en première partie du siècle. Et c'est très touchant. Ah oui, il faut que je fasse la cloche. Alors vraiment, je manque à tous mes devoirs. Parce que j'annonce l'agenda de Paysarbre pour cette fin de mois de novembre.
Tu t'auto-annonces, en gros. Alors, il y a quoi? Trois dates, dont la première qui est le 19 novembre, dimanche 19 novembre.
Et ben c'est dimanche, là. Hein. C'est dimanche qui vient.
Donc on a commencé à en parler un peu, c'est une journée spéciale plantation.
Voilà, c'est une journée autour de la plantation, savoir planter un arbre, toutes les clés pour réussir vos plantations. C'est dimanche 19 novembre, c'est à l'ODEV, on fait ça au CLAP où on a les bureaux de l'association et on plantera un arbre fruitier ou deux dans les jardins du Grand Cèdre, à l'ombre du cèdre. On parlera justement de toutes ces influences de la lumière, du sol et des bons gestes pour réussir ces plantations. Il reste quelques places. Vous pouvez contacter l'association, on vous donne les contacts à suivre pour nous rejoindre pour cette journée.
La journée d'après, le dimanche d'après sur lequel on sera mobilisé, c'est donc le 3 décembre et ce coup-ci on sera dans l'Aude.
Alors oui, on va dans l'Aude parce qu'ils organisent une jolie fête de l'arbre. Depuis l'année dernière, c'est leur deuxième édition dans un charmant village audois qui s'appelle La Grasse.
Qui est très connu pour son abbaye. Et il, c'est donc Nature et Progrès Aude, et puis Arbres et Paysages Aude.
Oui, cette année, ils se sont associés donc, à deux structures associatives, Nature et Progrès et Arbres et Paysages. Et du coup, ben, parce que c'était une très belle journée l'année dernière. Il y a des pépiniéristes, hein, on peut y acheter des arbres. Entre autres, il y a les pépinières Grange, là, qui sont sur les traces de Monsieur Bury, qui est un pépiniériste qui a marqué un petit peu les esprits par la qualité de son travail. Enfin, il y a des pépiniéristes talentueux qui seront là. Et puis, il y a les associations. Il y a Arbres et Paysages, donc, qui accompagnent les exploitants pour remettre des arbres, justement.
Et des haies, comme on en parlait. Et puis, nous, on y sera. Et qu'est-ce qu'on va faire?
Oh, ben, là, pour le coup, on va suivre nos habitudes. On parlera de greffe et puis on fera un peu notre petite promotion locale, et puis on rencontrera aussi nos confrères de l'Aude.
C'est enfin. Ça, on va aussi tisser un réseau racinaire. Et j'imagine qu'il y a aussi des conférences, etc. On peut retrouver toutes ces infos à quel endroit?
Je pense que toutes les infos sont sur le site d'Arbres et Paysages Aude.
Ou de Nature et Progrès, l'un ou l'autre. La dernière des dates qu'on peut déjà... Enfin, c'est pas vraiment une date qu'on peut avancer, mais c'est une tendance chez Paysarbre. On va se remettre à organiser la petite fête de l'arbre. Donc c'est notre événement, la troisième édition de notre événement qui commence à se préparer. On va se retrouver mi-décembre pour commencer réellement à discuter du contenu de la journée, de l'organisation. Et on vous en parle là maintenant déjà parce que on voudrait mieux vous associer, tout bénévole, toute bonne volonté. On vous invite à nous rejoindre, à nous dire si vous voulez participer et comment. Et voilà. Donc on aura un rendez-vous mi-décembre. On fera savoir ça sur via nos moyens de communication modernes. Le site internet paysarbre.org, la page Facebook Paysarbre tout court. On vous dira voilà, à quel moment exactement vous pouvez nous rejoindre. Toute bonne volonté est bonne à prendre.
Oui, et puis surtout, on est en train de composer le programme. Donc si vous avez des idées ou des
surtout
envies d'intervention,
ça, ouais.
N'hésitez pas à nous en parler. On est ouvert à toute proposition. C'est pour vous donner un petit peu les dates, ça risque d'être au début du mois de mars 2018. Voilà, donc on s'y prend à l'avance, mais c'est un peu nécessaire pour...
Ça va vite, voilà. On vous fera des petits points réguliers dans cette émission pour vous dire où on en est. Et ça va venir vite parce qu'avec les congés de Noël, etc., tout prend un petit
arrêt. Et pour finir sur l'agenda, je l'ai dit un peu précédemment, mais je le rappelle, à la fin du mois, là, donc dans une dizaine de jours, vous avez la fête de l'arbre à Saint-Jean-du-Gard. Saint-Jean-du-Gard, c'est une petite bourgade à côté d'Anduze. Et vous avez là la réunion de tous les pépiniéristes du sud de la France. C'est une très, très, très grosse foire. Il y a beaucoup de monde. C'est sur 2 jours, samedi, dimanche. La date, c'est 26, 27. Enfin, c'est le week-end le plus près de la fameuse Sainte-Catherine. Et puis, comme on parle de planter des arbres, on avait envie de vous en offrir un. C'est une nouveauté. On fait un petit jeu.
Un
jeu concours gagnant, voilà. Alors, on ne va pas vous faire des questions pièges. Et c'est pour voir un peu si vous nous entendez à l'autre bout du poste.
Allô, allô.
L'idée, c'est que vous pouvez gagner un arbre fruitier chez notre partenaire, ami et confrère Martin, en répondant à une petite question simple, si vous êtes des fidèles de l'émission.
Ce sera donc facile.
L'arbre à gagner, ça sera le premier qui envoie un mail à paysarbre@mailou.org ou bien par le formulaire de contact du site si vous ne trouvez pas. Et la question étant, quel était l'arbre du mois de octobre ?
Quel était son nom ? Et en latin, c'est plus rigolo quand même.
Alors si vous le mettez, oui, vous avez le droit de le mettre en latin et en français. Donc on parle bien de l'émission du mois d'octobre. Il y a eu une petite erreur de diffusion le mois dernier. Donc on a entendu 2 fois l'émission du mois de septembre avant celle du mois d'octobre. Ça va vous demander de chercher un peu dans les archives, mais enfin, c'est une question facile. Donc c'est le premier qui répond qui gagnera un arbre à récupérer à la pépinière de la Braise, et ce, à partir du premier week-end du dernier week-end de novembre ou en décembre. Ça vous fera l'occasion de découvrir aussi cette pépinière locale pour le coup.
Voilà, voilà, on vous a diverti, on vous a aussi intéressé, je l'espère, pendant bien 3 quarts d'heure. Je pense qu'il est temps qu'on vous rende à vos activités. Merci beaucoup pour votre écoute attentive. Merci beaucoup Tanguy. Merci Radio Lodève, comme d'habitude. On vous dit au mois prochain. Et puis un dernier petit mot, Tanguy, à propos de la musique qu'on va écouter, pour clôturer ça, la musique de Jean Ferrat, et le titre est
Le Châtaignier, me semble-t-il.
Merci.
J'entends les vieux planchers qui craquent, j'entends du bruit dans la baraque, j'entends dans le grenier, chanter mon châtaignier. Bien à l'abri dans ma soupente, moi j'entends chanter la charpente, ce n'est pas du bois vermoulu. J'entends les poutres qui se plaignent de ne plus donner de châtaigne en supportant mon toit pointu. J'entends les vieux planchers qui craquent, j'entends du bruit dans la baraque, j'entends dans le grenier chanter mon châtaignier. Quand on devient poutre maîtresse, c'est tout le toit qui vous oppresse, il faut chanter tout doucement. La chanson de ses origines, celle qu'il me chante en sourdine, en y mettant du sentiment. J'entends les vieux planchers qui craquent, j'entends du bruit dans la baraque, j'entends dans le grenier, chanter mon châtaignier. C'est surprenant, mais c'est logique. Il chante la chanson magique qu'il a apprise au fond des bois. Il me chante une chanson tendre que je suis le seul à comprendre quand la nuit vient à petits pas. J'entends les vieux planchers qui craquent, j'entends du bruit dans la baraque, j'entends dans le grenier chanter mon châtaignier. C'est vrai pourtant qu'il nous protège contre le froid, contre la neige, tout en berçant mes insomnies. Ce n'est pas une chanson triste, mon châtaignier est un artiste qui continue d'aimer la vie. J'entends les vieux planchers qui craquent, j'entends du bruit dans la baraque, j'entends dans le grenier chanter mon châtaignier.